Bonjour, vous êtes à nouveau sur Keolacom et c'est Shinta qui vous parle. Elle vous raconte la suite de son histoire, la troisième partie de sa vie. Et voilà, donc j'ai maintenant 73 ans, je suis encore en pleine forme, j'ai juste les genoux qui rechignent un peu. Mais même si tout va bien, j'accuse, comme on dit, le poids des ans. Je sens que je vais vers une fin, et bien que sibylline, cette sensation est souvent présente. Elle fait par exemple que je n'ai plus envie d'entreprendre de grands nouveaux projets. J'en ai tout de même des projets, mais plutôt à court terme, comme la refonte du site Keola ou le projet Osho. Des projets d'escapade, de voyage, de visite, bien sûr... La vie de couple est très, très, très présente et magnifique juste en ce moment. Voilà, mais en gros, il s'agit plutôt, comment dire, d'un retour sur ce qui a constitué l'essence de ma vie. Avec une profonde gratitude et beaucoup de joie aussi, il me semble pouvoir récolter maintenant ce que j'ai semé. Je ressens l'urgence de me raconter, comme si le fait de me raconter ma vie la faisait exister comme un tout. C'est un peu comme un paquet cadeau qu'on emballe avec beaucoup de soin et d'amour à l'intention d'une personne qui nous est chère. Et cette personne, c'est moi-même, évidemment. Mais c'est vous aussi, vous qui m'écoutez. Les moments forts d'une vie, qu'ils aient suscité du bonheur ou de la souffrance, sont autant de perles. Ce sont des joyaux précieux. Ils nous ont été offerts par l'existence et les faire ressurgir dans le présent est un moment fort aussi. Ma petite vie est une collection de pépites, de moments où j'ai exulté de bonheur, désespéré à en vouloir mourir, aimé de tout mon cœur et travaillé jusqu'à épuisement. J'ai été très intéressée aussi, les connaissances, l'acquisition de connaissances, ça a été quelque chose de très très important. J'adore apprendre. J'ai adoré apprendre et j'adore encore apprendre. Tout ça, je le rends à l'existence avec une gratitude qui me mène au bord des larmes. Vraiment. Mais ce sont des larmes de joie, bien sûr. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Évidemment, il y a l'autre côté. Et l'autre côté, c'est le mental qui s'inquiète. Il anticipe la déchéance physique. Il pose des questions qui demeurent sans réponse, du genre... Comment ça sera? Il y aura un après, quelque chose après la mort? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je pourrais pas, comme mes deux parents et ma sœur, m'endormir définitivement dans mon lit, tout simplement, sans avoir à souffrir longtemps, mourir comme par surprise, en somme? Comme beaucoup d'entre vous, je ne pense pas à craindre la mort en soi. D'ailleurs, à 39 ans, juste après la mort d'Osho, un AVC m'avait envoyé dans les nimbes. Je m'étais sentie mal et extrêmement fatiguée d'un coup, et j'étais incapable de formuler des phrases. J'entendais les mots, je les comprenais, mais à peine les avoir entendus qu'ils m'avaient échappé. J'étais parfaitement consciente. Visarjana voulait appeler l'ambulance, mais moi, je voulais juste mourir dans ses bras. Tendrement, tranquillement. Je pouvais m'en aller sans regret, sans attache, totalement libre, car avec Osho, j'avais touché l'essentiel et il m'avait libéré de mon karma. L'expérience s'est terminée au moment où tout à coup je me suis souvenu que j'avais rendez-vous avec une candidate maître Reiki une demi-heure plus tard. Et je me suis dit, je ne peux pas la laisser tomber, je dois assumer ma responsabilité de maître Reiki. Et d'un coup, j'ai retrouvé mes capacités mentales, je me suis levée et à l'heure dite, j'étais prête. J'ai souvent regretté cette impulsion par la suite, parce que en replongeant dans le samsara, dans le monde, je me suis recréé du karma et je me suis éloigné de la merveilleuse légèreté du monde lumineux. Mais j'ai fini par accepter que c'était le prix à payer pour la réalisation de soi. En effet, la confrontation aux défis, les échecs, les désillusions, mais les succès aussi, m'ont permis de démanteler quelques strates supplémentaires de l'ego et de mieux me connaître, au-delà de la projection idéaliste et de la pensée magique. Par le travail, les relations, les introspections, j'ai mûri, ou comment dire, quelque chose en moi s'est cristallisé. L'adage dit qu'on ne connaît ni le lieu ni l'heure, mais on dit aussi que la chose est inscrite quelque part et qu'elle a du sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a après ? Mystère. Je pense qu'il y a effectivement une présence qui se sépare du corps physique. Je le crois à cause de l'expérience merveilleuse que j'ai faite à la mort de mon papa. Et ici, j'en profite pour apporter une petite touche supplémentaire à son portrait. Je l'ai un peu malmené dans mes autres parties, dans mes autres récits. J'ai dit dans la première partie de mon histoire que papa ne disait rien, qu'il travaillait. Oui, il réparait les carrosseries des voitures accidentées, il a fabriqué les fameux petits œufs rouges de la télécabine de Champéry. Dans le jardin, il fauchait, creusait, plantait, et dans son atelier, il fabriquait des meubles et sculptait des bois précieux. Papa était un artiste. Il peignait aussi très bien. Et il aimait ses enfants. Quand un jour, maman lui a demandé d'aller acheter des cages à lapins dans le village voisin, papa est revenu avec un harmonium. Alors maman, très fâchée, lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et il a répondu que c'était pour faire plaisir aux enfants. Voilà donc, ça c'est plutôt mon vrai papa et ça aussi est un privilège de l'âge. La réalité nous apparaît plus souvent sous son vrai jour. Au lieu de critiquer ses parents, et le monde entier d'ailleurs, pour ce qu'ils ne sont pas, on développe peu à peu de la gratitude pour ce qu'on a. Eh bien, tout mon respect, papa, tout mon respect, maman, pour avoir donné le meilleur de vous-même à vos enfants et à la vie. Après le décès de papa, j'ai souhaité le contacter par le Reiki à distance. Et comme c'est souvent le cas, des images sont apparues sur l'écran de ma vision subtile. Le premier jour, je nous ai vus, papa et moi, sous forme vaporeuse, mais bien distincte. Nous nous approchons tranquillement l'un de l'autre et nous nous serrons dans les bras comme nous ne l'avons jamais fait de toute notre vie. Avec tellement d'amour, tellement de bonheur et si totalement. C'est difficile de décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais le mot qui me vient à l'esprit est rédemption, une rédemption absolue. En une fraction de seconde a été effacé tout ce qui n'était pas amour entre nous. Nos deux corps de lumière fusionnés, tout était bien, simplement. Nous étions libres l'un de l'autre et comblés. Papa s'est détaché de moi tout doucement. Il s'est retourné et s'en est allé. Le lendemain, quand j'essayais de le recontacter par le Reiki, il n'était plus là. Simplement. Si vous en avez envie, rejoignez-moi sur les podcasts de la série Reiki. J'ai encore quelques belles histoires à vous raconter sur ce sujet. Mais revenons un peu dans l'ici et maintenant. De quoi est-elle faite, cette dernière tranche de vie? Je me souviens avoir traversé une période de colère et de rancune vis-à-vis des jeunes générations. À un moment donné, je me suis vraiment sentie mise au rebut. On me demandait moins souvent. Parfois, j'entendais même dire « place aux jeunes !» et au lieu de percevoir mon avenir comme un espace infini, il y avait dorénavant quelque chose de flou, là-bas, devant, comme un mur, qui disait « stop ». Bien sûr, on sait depuis toujours qu'on va mourir, mais à un moment donné, Le « on » s'est commué en « je ». Et je l'ai ressenti, je l'ai bien ressenti jusque dans mes cellules. Heureusement, cette période de choc n'a pas duré et je me suis lancée dans ce que j'ai appelé à l'époque mon dernier grand projet. Gérer un hôtel. Je ne l'ai pas vraiment décidé. En réalité, Visarjana et moi, nous voulions simplement disposer d'une salle pour les groupes que nous animions à Arelas, sur l'île de Corfou. De fil en aiguille, c'est un hôtel de 12 appartements avec resto, piscine, cabinet de soins et grande tente pour les animations qui nous sont tombées dans les bras. Une sacrée aventure. En 3 ans, pour le meilleur et pour le pire, un surf fabuleux en compagnie d'amis sannyasins, d'adeptes de chant et de mantra ou de yoga, des festivals comme ceux de Deva Prema le Miten, des discos, des cuisiniers et cuisinières de rêve, des buffets végétariens fabuleux, une communauté de Grecs adorables et impossibles à la fois, sans compter 3 inondations. Tout cela, je vous le raconte en détail dans mes podcasts Dharma. Je vous assure, il y a de quoi bien rire et de quoi bien s'énerver. Avec Dharma Corfou, nous avons vécu une période de créativité extraordinaire, notre chant du cygne en quelque sorte. Comme j'étais fière de pouvoir dire que j'avais mon hôtel en bord de mer, avec resto et piscine tout de même. Nous n'avions aucune formation en matière d'hôtellerie, ni l'un ni l'autre. Nous avons tout imaginé sur la base de nos propres séjours dans les hôtels. Et nous avons réussi. Nous nous étions engagés pour 3 ans, juste ce qu'il faut pour vivre une expérience fabuleuse et la quitter au meilleur moment. Pour moi, cette escapade hors du monde thérapeutique, dans ce que j'appelle le vrai monde, a finalement fait de moi une adulte. Le test final, en quelque sorte. Je n'ai jamais autant appris sur moi-même et si vite. Je n'évoluais plus dans l'espace protégé d'un rôle défini par la relation thérapeutique ou d'enseignante. J'étais sur la place du marché et j'ai adoré. Je crois que la plupart de mes clientes ont adoré aussi. Grâce à eux, j'ai enfin pu sentir que j'avais ma place dans le monde et que je pouvais être appréciée simplement pour ma personne et non pour ma fonction. Comment Visarjana a-t-il vécu tout cela? Vous le saurez en écoutant le podcast de son histoire. Je suis d'ailleurs bien curieuse et même un peu anxieuse à l'idée de l'écouter. Et ceci me mène au thème du couple. Que devient une relation après 45 ans de vie commune? Eh bien, je dirais que c'est comme un bon millésime qui vieillit dans un fût de chêne, avec grand soin et sans relâche. Mon couple est ma base, mon havre, mon terrain de jeu, ma ressource fondamentale, mon lieu d'inspiration et de ressourcement, ma sécurité émotionnelle et matérielle, mon miroir, mon amour, mon bonheur, la jouissance de l'âme sœur, la fusion des cœurs et des corps, ma famille, la source de ma créativité et la possibilité d'écrire une histoire. Nous n'avons pas eu d'enfants ensemble. Je n'en ai pas voulu très consciemment parce que je savais que je n'étais pas assez solide émotionnellement et psychiquement pour ne pas reproduire les aspects négatifs du conditionnement reçu par mes parents. Mais inconsciemment et organiquement, j'étais bien une femme. Et la pulsion de donner la vie a été très très forte. Je suis même tombée enceinte avant de connaître Visarjana. Mais ce n'était pas le bon père, pas le bon moment, et j'ai avorté. Cette victoire de mon esprit sur mon corps m'a permis d'être plus libre pour moi-même, dans mon couple et dans ma profession. Mais toute victoire a un prix. Et je n'ai réalisé que bien plus tard à quel point le chagrin d'avoir refusé d'accueillir une vie pesait sur mon cœur et sur ma vie. Pour moi, à l'époque, un enfant était un fardeau, comme je l'avais été pour ma mère, et j'étais incapable de voir qu'un enfant était en réalité une âme chargée d'amour, une messagère du divin qui m'avait trouvée suffisamment belle et attirante pour vivre l'aventure d'une vie avec moi. un être qui me faisait une confiance absolue en plaçant sa vie dans mes mains. J'en tire la conclusion que l'avortement n'est en aucun cas une méthode de contraception acceptable. Et même si politiquement je suis pour la liberté de l'avortement, je suis aussi une inconditionnelle du suivi psychologique qui doit l'accompagner. On peut éviter bien des drames en informant les jeunes de manière intelligente. Ne pas me réaliser en tant que mère m'a en quelque sorte forcée à me réaliser d'une autre manière, par le travail et par le couple. Bon, mais je me suis aussi occupée des enfants de Visarjana. Il en a 3. Je me souviens qu'au début de notre relation, quand les choses ont commencé à devenir solides, j'étais absolument d'accord de prendre tout le paquet. Le père et ses 3 enfants. Ces petites filles, je les ai tout de suite adoptées et aimées de tout mon cœur. Cependant, en ce qui concerne la vie au quotidien, la chose n'a pas été aussi simple. Les filles voulaient leur père pour elles, moi je le voulais pour moi. Je voulais mon amant pour moi. Je crois que confusément aussi, je considérais ces filles comme mes propres enfants. Évidemment, ça n'a pas marché, forcément. De leur côté, elles ont longtemps essayé de rapprocher le père et la mère et de recréer la famille d'origine. Donc, voilà, on peut imaginer le genre de tension, le genre de conflit, le genre de peine, de tristesse que ça a pu créer. Les filles vivaient avec leur mère en Suisse allemande et nous les avions pour le week-end et les vacances. Et puis, il y a eu l'adolescence et l'âge adulte. Là, nous les avons un peu perdues de vue pendant quelques années. Mais depuis qu'elles ont elles-mêmes des enfants, depuis que Visarjana est grand-papa, nous nous sommes retrouvés. Et je leur dois beaucoup à Maya et à Vera. Elles m'ont vraiment accepté maintenant et le sentiment d'appartenance à une famille est un besoin fondamental pour moi. Elles l'ont compris et généreusement, elles me l'offrent. Vous êtes merveilleuses toutes les deux. Merci. Je peux dire que la vie m'a offert la situation idéale pour moi. J'ai vraiment besoin de beaucoup d'espace pour moi-même. D'après le Human Design, je suis du type manifesteur émotionnel. Les manifesteurs émotionnels sont des leaders naturels conçus pour déclencher le mouvement et la prise d'initiative. Leur centre solaire est défini et relie les émotions à l'action, ce qui peut rendre les impulsions particulièrement fortes et parfois excessives. Pour éviter les frictions et les résistances, il est crucial pour le manifesteur émotionnel d'informer les autres de ses intentions, même s'il est indépendant et n'a pas besoin de leur autorisation. Visarjana est également du type manifesteur émotionnel. Nous avons ainsi pu nous consacrer plus librement l'un à l'autre et l'espace Keola a été en quelque sorte notre enfant. Les quelques 3000 personnes que nous avons initiées au Reiki sont un peu nos enfants spirituels. Nous avons consacré nos vies à créer, initier, inspirer est notre raison d'être et ça nous rend heureux. Visarjana, concepteur, rédacteur en publicité, en plus de son activité Keola, moi avec mes livres qui ont fait connaître la méthode du Reiki et Orasoma dans le monde francophone, j'ai aussi introduit le massage hawaïen Lomi Lomi et cofondé le groupe européen de Reiki, European Reiki Group. J'ai en effet déclenché des mouvements à plusieurs reprises dans ma vie, et même s'ils sont modestes, ils me semblent avoir fait le job que l'existence avait prévu pour moi. Pour quelques années encore, celles qui me restent, je souhaite pouvoir me rendre encore un peu utile et contribuer au bonheur et au bien-être des personnes qui trouveront le chemin vers l'espace Kéola. J'espère faire courir mes doigts sur les touches du piano encore longtemps. Je veux aussi arroser mes plantes et communiquer avec des amis aux quatre coins de l'Europe. Et tout cela, bien sûr, en compagnie de mon bien-aimé Visarjana. Je ne m'imagine pas vivre sans lui. La vie perdrait toute sa saveur. N'est-ce pas, Visarjana? À bientôt!